Chaque matin, ma grand-mère Da se lève avant tout le monde. Elle reste debout un moment dans la pénombre. Puis je l'entends ranger la vaisselle dans la cuisine. Enfin, elle sort dans le jardin. C'est là qu'elle veut voir le jour se lever. Elle touche chaque plante tout en lui parlant à voix basse. Un doux murmure. Une fois, je lui ai demandé ce qu'elle disait aux fleurs. Elle me répondit que c'était sa façon de prier. Da connaît tout le monde et tout le monde connaît Da. Et pourtant, elle ne bouge jamais de sa galerie. Je ratais souvent l'école pour pouvoir rester à ses côtés. C'est là que j'ai tout appris, enfin tout ce qui compte. La douceur du soir, la rumeur de la pluie, le vol soyeux de la libellule, l'odeur de la terre après une forte pluie tropicale, le soleil en feu qui titube vers la mer et la nuit étoilée. Une fois, on a passé la nuit sur la galerie à contempler le ciel en silence. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G, chez Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h, en semaine impair, mais aussi quand vous le souhaitez, en podcast sur radio-g.fr, on se souviendra de nos grands-mères avec un ou une invitée. C'est un espace inédit, une grand-mère, comme une nature profonde, c'est une immobilité avec voyage intérieur, extérieur. Une école à elle seule, une université des sens et de la lenteur. Pour le jeune Dany Laferrière, qui avant de devenir un écrivain reconnu, membre de l'Académie française, a grandi en Haïti, auprès de sa grand-mère Da. Une poésie brève et belle jusque dans le prénom et qui transpire dans tout ce livre dont je viens de lire un extrait en exorde de cette émission. Un livre paru en 2019 aux éditions de l'Aube sous le titre « Vers d'autres rives ». Elle aussi se nourrit d'un savoir, interroge une histoire. Je suis très heureux d'accueillir à notre micro Sarah Bélanger, autrice et réalisatrice, qui a notamment réalisé un sublime documentaire intitulé « C'est comme ça », qui est disponible jusque début janvier sur la plateforme France TV. Un documentaire sur un passé ouvrier un peu trop oublié à Angers, celui de sa grand-mère et d'autres femmes au sein de l'usine Excelsa. Bonjour Sarah et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Bonjour Valentin, merci, je suis très très contente d'être ici.
Sarah, première question rituelle de cette émission, c'est quoi le prénom de tes grands-mères ?
Alors ma grand-mère paternelle, sur laquelle j'ai réalisé ce documentaire, c'est comme ça, s'appelle Marie-Joseph. Bon, tout le monde l'appelle Marie-Jo. Et ma grand-mère maternelle s'appelle Marie-Antoinette.
De Marie. Et toi, tu les appelles comment ? C'est quoi leur surnom ? Parce qu'on les appelle rarement par leur prénom, nos grands-mères.
Alors, donc Marie-Jo, moi je l'appelle Mamie Jo, facile. Et donc Marie-Antoinette, moi je l'appelle Maminette. Il y en a beaucoup qui l'appellent Toinette aussi dans les petits-enfants.
Maminette, c'est le surnom que pour toi ? C'est que toi qui utilises ça ou...
Bah, je pense que c'est ma maman qui a commencé à l'appeler comme ça avec moi et mon frère. Et puis voilà, mais il y a plusieurs surnoms. On est beaucoup de petits-enfants de ce côté-là, donc tout le monde a un peu son surnom.
Et alors, ces deux grands-mères, elles sont toujours là, elles sont toujours avec toi. Tu les côtoies toutes les deux encore ?
Ouais, elles sont toujours en vie, toujours très en forme. Elles ont 87 et 88 ans. Et mes grands-pères, par contre, sont décédés depuis quelques années. Mais ouais, elles sont toujours. Je les vois toujours. J'ai la chance d'être quand même très proche de mes grands-mères et de continuer de les voir. Ouais.
Alors, par exemple, si on en prend une des deux, donc Marie-Antoinette, Maminette, parle-nous un petit peu d'elle. Où est-ce qu'elle habite ? Qu'est-ce qu'elle fait ? À quoi elle ressemble ? C'est quoi ta relation avec elle ? Essaye de nous la dessiner un petit peu.
Ouais, alors, Donc Marie-Antoinette, elle habite à Biernay. Elle est née à Biernay, donc c'est un village qui est à côté de Château-Gontier en Mayenne. Donc elle est née à la ferme. Ses parents étaient agriculteurs et elle a été agricultrice aussi avec mon grand-père toute sa vie. Et voilà, elle habite toujours à Biernay, toujours très active. Elle fait toujours plein de trucs. Elle a une vie sociale bien remplie. Et voilà.
C'est quoi tes souvenirs avec elle, avec eux, à la ferme, quand tu étais jeune peut-être ? Est-ce que tu y passais du temps ?
Alors moi, quand j'étais petite, ils ont été comme à la retraite. Donc c'était mon oncle et ma tante.
Tu les as connus retraités ?
Ouais. Et les souvenirs que j'ai, en tout cas, ils étaient déjà retraités. Mais en tout cas, on passait beaucoup d'été avec les cousins, entre la ferme et chez eux, parce qu'ils habitaient quand même à côté de la ferme. Donc... ouais, c'est des très bons souvenirs de jouer à la campagne avec les cousins et rigoler avec mes grands-parents. On rigolait beaucoup.
Et alors, Marie-Antoinette, est-ce que tu as des souvenirs forts d'habitudes ou de phrases, où il y a des petites choses comme ça récurrentes qui t'ont marqué?
Qui m'ont marqué, c'est assez général, mais ce que j'aime beaucoup, en tout cas chez ma grand-mère et mon grand-père aussi, qui est décédé aujourd'hui, c'était l'art de, même dans des moments qui pouvaient parfois être difficiles, de tout démystifier grâce à l'humour et d'avoir vraiment cette force de pouvoir rire quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quelque chose qui nous ont beaucoup transmis à tous les petits-enfants. Je pense qu'on est beaucoup à dire ça. Et une espèce de force de vie comme ça, et de avec beaucoup d'humour et de joie.
Oui, dès qu'il y a un moment un petit peu critique, une crise, on utilise ça pour apaiser les choses. C'est un héritage de famille que tu ressens en toi aujourd'hui.
Oui, carrément. Qui est très, très utile, surtout dans les temps difficiles. Toujours vachement de douceur, de joie et d'humour. C'est ça, dans les moments... assez douloureux, quoi. Et ça permettait de... Enfin, je sais pas, ça donne vachement d'espoir, au final. Ça permet de faire face à... dans l'adversité, je trouve.
Et Marie-Antoinette, aujourd'hui, c'est quoi ces petites habitudes? Quand tu vas la voir, qu'est-ce que vous faites? Raconte-nous un petit peu ta relation aujourd'hui avec elle.
Je vais la voir. Alors, c'est vrai que je peux la voir un peu moins facilement que ma grand-mère paternelle, parce que du coup, elle est quand même un peu plus loin.
Parce que tu vis à Angers, toi et...
Moi, je vis à Paris.
Tu vis à Paris,
mais c'est vrai que j'ai vécu à Angers un moment. Je suis née à Angers. Mais c'est vrai que quand on va la voir, ça dépend. Elle est venue aussi à Paris avec ma mère il n'y a pas longtemps. On a fait pas mal de visites, on a vachement marché. Je sais qu'on a plein de... Ce que j'aime beaucoup, c'est valable chez ma grand-mère maternelle et paternelle, c'est que c'est des femmes qui sont hyper curieuses de ce qui se passe aujourd'hui. Elles ne sont pas du tout passéistes, elles ont vraiment cette espèce de... Elles sont vachement dans l'action, quoi. Elles sont dans aujourd'hui, elles sont toujours...
Comprendre le monde aujourd'hui.
C'est ça, il n'y a pas ce truc, des fois, parfois, chez des personnes qui vieillissent, où peut-être une incompréhension du monde font qu'elles se renferment un peu sur elles-mêmes, et c'est un peu ce discours de « c'était mieux avant ». Chez mes grand-mères, l'une comme l'autre, je trouve qu'il n'y a pas du tout ça. Et il y a vraiment toujours vachement d'appétence pour ce qui se passe, pour être des choses nouvelles, des nouvelles expériences, et d'être très, très curieuse de ce qui se passe, ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Et je trouve que ça, c'est une grande force aussi. C'est super... moi, j'aimerais beaucoup être comme ça à leur âge. Je trouve que c'est hyper inspirant.
Il y a rien de perdu, quoi. C'est pas parce que l'âge avance qu'on doit rester dans son époque. Non. Il y a des gens âgés qui gardent cette curiosité, cette ouverture au monde, comprendre les autres générations, l'évolution des choses. Tu ressens ça chez elles, hein.
Ouais, c'est ça. Elles regardent pas dans le rétro, quoi. C'est vraiment des femmes d'action.
Et par exemple, à Paris, quand elle est venue, vous avez discuté de quoi? Tu l'as emmenée faire quoi, Marie-Antoinette, par rapport à tout ça, et tu sentais qu'elle était curieuse aussi de voir des choses.
Ouais, carrément. On a fait des musées, on s'est vachement baladé, on a eu plein de discussions intéressantes jusqu'à tard le soir. C'était super.
Et donc Marie-Antoinette et puis Marie-Joseph aussi, Marie-Jo. Tu m'as dit en arrivant là dans le studio que tu venais de chez elle, que tu avais dormi chez elle. Marie-Jo, est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu, nous la présenter?
Marie-Jo, ma grand-mère paternelle, donc c'est une femme qui a 87 ans et qui vit toujours dans sa maison. Alors depuis maintenant, ça va faire 60 ans, donc dans un quartier d'Angers qui s'appelle aujourd'hui les Hauts-de-Saint-Aubin, mais avant c'était Verneau. C'est un quartier qui a été pas mal gentrifié, si on peut dire, ces dernières années, mais sinon c'était un quartier très populaire. Donc elle vit toujours dans sa petite maison ouvrière dans ce quartier-là. Et Marie-Jo, elle n'est pas très grande, je crois qu'elle fait 1m46. Et elle a été, toute sa vie, elle a été ouvrière dans le textile, dans une usine à Angers dont tu as parlé en introduction, Excelsa, qui était une usine textile. Elle a été aussi militante pendant toutes ces années-là.
Oui, donc Marie-Jo, j'informe les auditrices, les auditeurs que vous allez pouvoir la voir à travers ce documentaire dont on a parlé au début de l'émission, donc c'est comme ça. Ce documentaire, c'est quoi la genèse de cette expérience, de ce travail que tu as fait avec elle, sur elle, sur son passé?
Moi c'est marrant parce qu'au tout départ, j'avais pas du tout l'ambition de réaliser un film. fait, j'ai commencé, elle a été hospitalisée en 2019 pendant un bon moment. Elle avait des problèmes d'arthrose très forte, donc elle ne pouvait plus bouger. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu un espèce de stress de me dire, ah, il faut quand même, enfin, j'ai voilà, eu un besoin viscéral de garder une trace et d'en savoir plus en fait sur sa vie, parce que
moi, elle est devenue fragile pour toi et tu as voulu interroger quelque chose.
Exactement. Et en fait, voilà, je connaissais pas, enfin, je savais vaguement qu'elle avait été ouvrière, militante, mais vraiment,
Ouais, t'avais vraiment des petites traces de cette mémoire, de ces récits, mais t'étais pas allé beaucoup plus loin encore. Ouais.
Non, elle m'en avait jamais vraiment parlé. Et donc, c'est à ce moment-là, quand elle est sortie de l'hôpital, où je suis venue avec mon dictaphone et puis j'ai commencé à discuter avec elle et l'enregistrer, à raconter sa vie, quoi. Et c'est quand j'ai découvert vraiment toute l'ampleur de cette histoire-là, donc de son passé ouvrier, ses conditions de travail et toute son histoire militante, que voilà, petit à petit, ça a commencé à semer des graines un peu comme ça d'envie de projet, enfin de détendre un petit peu ce projet. Et puis c'est vrai que aussi de découvrir qu'il n'y a plus d'archives du tout de cette usine qui a été détruite, et voilà, il n'y a plus de traces, plus de photos, plus rien. En fait, tout a été détruit quand l'usine a été fermée. Ouais, ça attisait vachement ma curiosité, quoi. Comment, enfin. Et cette envie, justement, de matérialiser un passé qui n'existe plus. Enfin, comment on fait un film quand il ne reste plus rien ? Voilà, tout ça a fait que, petit à petit, le film a pris un peu d'ampleur.
Oui, c'est vrai que cette information, pour avoir vu le documentaire, on sent que ça, c'est quelque chose aussi qui oriente aussi des choix que tu as fait d'esthétique, de représentation. Chacun le verra. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, alors qu'on est à des archives municipales, départementales existent, on peut trouver plein de choses, pourquoi le passé de cette usine, de ces ouvrières, qui ça concernait quand même beaucoup de monde, une époque large, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a disparu? Est-ce que tu le sais? Et est-ce que cette disparition t'a encore plus invité à en parler? Bah, oui. Résister.
Carrément. En fait, tout simplement, l'usine a, la production a été délocalisée, comme beaucoup d'usines en France, donc à l'étranger, en Tunisie et en Chine. Et donc, les usines en France ont fermé. Et en fait, quand le bâtiment a été détruit, ils ont détruit les archives avec, quoi. Ils ne sont pas posé la question de ce qui pouvait être gardé ou pas. Donc, c'était pas forcément quelque chose. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, de ce que j'ai pu en comprendre, c'est pas quelque chose de volontaire, il faut effacer forcément cette histoire. Mais c'est plus, on se disait, ça va intéresser personne. En fait, c'est pas intéressant. C'est des ouvrières du textile à Angers, on s'en fout, quoi. Et en fait, moi, j'ai beaucoup lu d'historiens, d'historiennes autour des mondes populaires, de l'histoire des femmes, et notamment Michel Perrault, qui a beaucoup écrit là-dessus, qui est une grande historienne. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était quelque chose qui est vraiment commun, et c'est vraiment quelque chose qui arrive, qui est dans l'histoire des femmes ouvrières, des militantes. Il reste très très peu de traces de manière générale, et c'est pas forcément que cette usine là mais ça concernait beaucoup d'autres.
Oui, c'est quelque chose de global, de peu considéré, cette mémoire là cette mémoire du monde ouvrier.
Exactement.
Et ça c'est assez révoltant. Tu l'as senti comme un truc révoltant pour toi, pour ta grand-mère?
Oui. Oui, moi j'étais vraiment révoltée par ça. Et elle, au départ, j'avais l'impression que. Je pense qu'il y a un petit peu une forme de peut-être mépris intériorisé aussi, parce que comme c'était des femmes en plus qui avaient eu peu d'éducation, elles avaient dû arrêter l'école très jeune, elles ne savaient pas forcément très bien écrire, elles ne maîtrisaient pas forcément ces outils-là. Elles-mêmes avaient fini par se dire, à force aussi d'humiliation répétée, que ça va pas intéresser grand monde. Et même
on compte peu.
Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, au début, quand j'ai commencé le film, ce qu'elle disait, tu vas intéresser personne avec ça. Et je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment intériorisées. Ça me révoltait encore plus. Parce que, évidemment, tout ce pourquoi toutes ces femmes se sont battues, ça représente énormément d'ouvrières. Ça fait. Les acquis sociaux qu'on a aujourd'hui, qui sont malheureusement beaucoup remis en question ces derniers temps, elles ont vraiment participé à les bâtir. Et je pense qu'on a tout intérêt dans notre société à se souvenir de ça, quoi, à se souvenir que ça ne vient pas de nulle part. Et que, voilà.
Oui, rendre hommage à des gens qui ont lutté pour ça, alors que les conditions étaient encore peut-être pires. Elle en parle de ces conditions. Ta grand-mère, c'était quoi? C'était comment dans cette usine? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté de ces conditions de travail et de vie?
Alors elle, c'est marrant parce qu'elle a tendance... Ma grand-mère, elle a eu une vie très dure. Hein. Elle est née milieu paysan aussi. Ses parents étaient à la ferme, 14 frères et sœurs. Enfin oui, ils étaient 14 enfants et famille très très pauvre. Donc elle a commencé à travailler à 6 ans à la ferme. Donc elle a toujours connu que le travail est des choses quand même assez dures. Et elle a commencé à travailler à l'usine assez jeune aussi. Mais c'est vrai, quand elle en parle, on sent la dureté. Et en même temps, elle le féminise aussi beaucoup. Enfin, quand elle parle de l'usine, elle fait « oui, c'était un peu barbant ». Et c'est marrant parce que dans le documentaire, moi, j'ai vachement travaillé du coup, autour de sa parole. Hein. Il y a beaucoup de son témoignage, mais la personne finalement qui dépeint une usine vraiment dure, vraiment ce qu'elle était, c'est mon père qui a travaillé aussi. Et voilà, où il compare ça vraiment à une prison, ou à du travail forcé. C'était tellement intense, la pression des chronométreurs. Ouais, c'était terrible.
C'est déjà un regard un peu plus extérieur, quoi, ouais. Celui de ton père.
Bah oui, c'est ça. Et bon, ma grand-mère le dit aussi. Hein. Mais oui, c'était vraiment cette pression du temps, quoi, qui était. Évidemment, les gestes de travail qui étaient très difficiles, mais aussi ce contrôle du temps. Enfin, vraiment, cette espèce de. Enfin, c'est ce qu'elle dit à un moment dans le film. C'est l'horloge, elle est imprimée dans la tête, quoi, parce qu'il y a vraiment un conditionnement. En termes de production, parce que c'était au rendement, la productivité, il fallait faire un certain nombre de pulls par jour, et donc c'était tout était extrêmement
normé et ouais. Précis. Et d'ailleurs, ce sont des habitudes et des codes qui sont restés, quoi, qui ouais. Sont restés en elle, dans tous ces gestes.
Oui, complètement. Moi, c'est vraiment le film, j'ai vraiment voulu travailler sur toutes les traces invisibles que ça a laissé, parce qu'en effet, donc il n'y a plus de traces matérielles. Et finalement, la seule archive que j'avais, c'était ma grand-mère.
C'était son corps.
Ouais, ouais. Exactement. Et donc, ça a été travailler la mémoire du geste. Donc, les gestes, elle les a toujours très, très bien en tête. Hein. Même ça fait plus de 30 ans maintenant qu'elle a été licenciée. Elle s'en souvient extrêmement bien, très précisément. Et puis voilà, toutes justement les traces intérieures. Donc, cette pression du temps. Le fait de d'avoir toujours aujourd'hui gardé une habitude de vie très cadrée, de se réveiller toujours à la même heure, enfin tout ça en fait ça reste imprimé.
Qu'est-ce qu'elle en a pensé du documentaire sur l'après? Qu'est-ce que ça a généré comme conversation entre vous même, ou avec le reste de la famille? Qu'est-ce qui se passe dans la famille après ça? Après c'est comme ça.
Alors la première fois qu'elle l'a vu, moi j'étais très stressée, vraiment très stressée, et en fait elle était morte de rire tout le long. Ça l'a beaucoup fait rire,
de
ça l'a beaucoup
amusé.
Ouais. Puis bon, c'est vrai qu'il y a, dans le film, il y a quand même pas mal d'humour aussi, même si ça traite quand même de choses assez difficiles. Hein.
Ouais, je fais une parenthèse, mais c'est le documentaire, il est extrêmement doux, extrêmement drôle, extrêmement touchant, extrêmement beau. Franchement, j'invite tout le monde à aller le voir, mais vas-y, je te laisse reprendre, Sarah.
Merci. Ouais, pour moi, c'était hyper important, parce que je voulais vraiment pas faire quelque chose de pathos ou de misérabiliste, parce que c'est vraiment pas ça. Et je sais plus ce que je disais.
Ouais, pardon, c'est de ma faute, je t'ai coupé, mais en tout cas, c'est génial, parce que tu parles avoir mis de l'humour aussi dans... Et là, on voit un lien aussi avec les autres grands-parents, l'autre partie de la famille, où tu nous disais au début que... On peut dédramatiser les choses et présenter des choses âpres aussi avec un regard drôle. Et c'est vraiment ce que tu réussis à faire. On a l'impression que ça fait une combinaison de tes deux héritages, de tes deux parties. En tout cas, ouais, on comprend que ça t'importait son regard parce que tu as voulu lui rendre hommage. Tu n'as pas voulu lui faire du mal, évidemment, à travers ça. Donc, son regard importé et ça t'a satisfait comment elle a vécu ce film,
ouais. Ouais. Bah là, c'est vraiment devenu son film. C'est ça qui me fait rire. Voilà, au départ, elle était assez extérieure. Elle me laissait la filmer, voilà, parce que vous voyez que ça me faisait plaisir. Donc, elle s'est laissée filmer. Mais là, maintenant, ouais, c'est ça. Je pense qu'elle est assez fière, ouais, parce qu'elle l'a montré à pas mal de gens. Elle accompagnait des projections. Et puis, c'est très drôle parce que je sais plus, sa sœur qui lui disait. Un moment, oui, tu parles pas beaucoup d'Albert, donc qui était mon grand-père. Et puis elle répond, ah oui, mais c'est vrai que j'aurais pu mettre une photo d'Albert, mais finalement je l'ai pas fait. Enfin, comme si c'était elle finalement qui avait fait le film,
fait le montage,
ça me fait rire. Donc non, c'était une très bonne expérience. Et puis ça, c'est vrai que mon père le dit aussi, lui, il n'était pas au courant de plein de choses qui sont abordées dans le film. Enfin voilà, Il y a pas mal d'événements, aussi bien sur la vie personnelle de sa mère et sur sa vie professionnelle, où il n'avait pas du tout connaissance de ça. Donc lui aussi, il a été très ému de ça, parce qu'il a découvert tout un pan de son histoire aussi, finalement.
Ces projets-là de mémoire bénéficient à toute la famille. Tu as fait découvrir des choses, évidemment, au grand public, mais en premier lieu, peut-être aux membres de ta famille.
Oui.
Et à part ton père, d'autres membres de la famille l'ont vu, ont été touchés, t'ont fait des retours aussi dessus.
Ouais. Bah c'est alors ses neveux et nièces, j'ai eu pas mal de retours. Moi, je les connais pas parce que bon, 14, ils sont 14,
c'est massif.
Donc moi, je connais pas toute la descendance, mais je recevais des messages de temps en temps, ou même des personnes, enfin des amis de mon oncle qui a grandi dans le quartier aussi à Vernot, voilà, qui a retrouvé aussi des choses. Enfin voilà, il transposait un peu à sa famille, à lui aussi, parce que finalement, c'est ça. Je pense qu'il y a pas mal de gens, finalement, là, pour avoir montré le film en Bretagne, vraiment avec des personnes que je ne connaissais pas du tout, hein, c'était dans le cadre du mois du documentaire, eh ben, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés, qui ont retrouvé leur mère ou leur grand-mère, ou même leur propre histoire, parce qu'ils ont vécu des choses en commun. Et ça, c'est super, quoi, de te rendre compte que tu peux toucher...
Oui, en rentrant dans cette intimité-là de ta grand-mère, dans cette histoire particulière, et comme tu le disais par ailleurs, c'est des choses qui se sont passées aussi à d'autres endroits, pour d'autres usines, pour d'autres ouvriers et ouvrières. Et je me demandais, est-ce que tes deux grand-mères, elles se connaissent bien, elles se voient, elles se croisent parfois, elles s'entendent bien?
Alors aujourd'hui, elles ne se voient plus trop. Elles sont vues la projection du film au 400 coups. Il y avait eu l'avant-première au 400 coups en fin mai. Mais c'est vrai qu'elles ne se voient plus beaucoup, parce que mes parents sont divorcés. Donc maintenant, la famille est un peu plus éclatée. Mais oui, elles s'entendaient bien, en tout cas. Et puis, elles ont pas mal de points communs.
Ouais, ce point commun dont tu parlais, de curiosité, quoi, des femmes curieuses.
Ouais, et puis des femmes qui s'affirment aussi beaucoup, hein, parce que ma grand-mère maternelle aussi, elle était... En étant agricultrice, elle a aussi milité pour les droits des agriculteurs. Enfin, et c'est des femmes qui n'ont pas peur de s'affirmer et d'élever la voix. Enfin, c'est des sacrés modèles, quoi.
Oui, ce mot de militante, tu l'as prononcé pendant cet entretien, et on le voit aussi dans le documentaire. On a presque l'impression que Marie-Jo, elle est pas militante pour elle-même, mais elle est militante pour les autres. Ce qui la touche, c'est des situations des autres. Et quand il faut parler d'elle, c'est presque pas grave, quoi. Le c'est comme ça, il est un peu pour elle, mais ça doit pas être comme ça pour les autres. Enfin, on sent que j'exagère peut-être un peu, mais on sent un truc comme ça.
Si, il y a carrément de ça. Je pense que c'est pas mal commun d'ailleurs à beaucoup de femmes de cet âge-là, enfin de cette génération-là. Un peu cette espèce de pudeur de voilà, faut surtout pas trop se mettre en avant. Et en même temps, je pense que aussi, bon, par rapport à l'usine, il y avait tellement. Enfin, le collectif était tellement important, c'est ça qui les a fait tenir, quoi. C'était vraiment. Les liens qu'elles avaient construits grâce au militantisme, tout ce qu'elles avaient appris, toutes les relations qui sont créées. Donc je pense que voilà, c'était pour elles, c'était inextricable de son combat, quoi.
Et ce combat-là, c'est cette manière d'être militant, de défendre des choses. Toi, tu as épousé un petit peu ça dans ton travail, alors peut-être pas sur tous les projets, mais tu sens tu as cette dimension-là en toi, tu veux aussi y participer.
Oui. Moi, je peux pas dire que je suis... Enfin, bon, quand on fait des films, c'est un autre travail, quoi. Mais c'est vrai que moi, je m'intéresse énormément à plein de questions de réflexion politique. Donc c'est forcément, je pense que le fait d'en avoir beaucoup discuté avec elle, même si c'était un peu sur le tard finalement, ça a participé à nourrir ces envies-là, clairement.
Et par exemple, tu travailles sur quoi comme projet en ce moment ou dans le futur qu'est-ce que tu fais?
Eh bien là, je travaille sur deux projets. Donc il y a deux projets en même temps.
Si tu veux bien en parler. Hein, si c'est...
Avec plaisir. Il y a un projet donc, qui se passe à Nantes dans un stage de rap en mixité choisie, donc entre femmes et personnes issues de minorités de genre. Donc c'est un stage d'écriture de rap qui est destiné pour des amateurs, des amatrices. Et c'est hyper intéressant, enfin voilà, tout ce que ça crée, en fait, tout ce que cette pratique musicale crée dans, voilà, à la fois collectivement et en même temps individuellement, ce que ça peut transformer, ces expériences de vie. Donc ça, c'est un projet que j'ai, donc qui est finalement aussi assez... bon, je ne sais pas si on peut dire militant, mais si, quand même, il y a quelque chose de très politique là-dedans. Et un autre projet autour de, ben, des personnes qui travaillent dans les call centers, comme mon frère. Enfin, voilà, dans mon film, il y a mon frère qui fait un peu une ouverture vers aujourd'hui par rapport au travail de ma grand-mère.
Comment on est encore aussi aliéné d'une autre manière, hein. Il y a quelque chose de ça, hein, dans ce que tu montres.
Ah bah ouais, moi, c'était clair que je ne voulais pas faire un film au passé, quoi, parce que même si les conditions... Enfin, finalement, la question, c'est est-ce que ça s'est vraiment amélioré ? Le travail dans les usines, ça n'existe plus, en tout cas en France, tel que ça existait à cette époque-là. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup moins. Ça existe encore, hein, mais c'est plus rare. Mais en tout cas, voilà, les conditions, clairement, je pense que ça a pas forcément... Enfin, la technologie n'a pas forcément servi les personnes qui travaillent, quoi. C'est toujours un peu cette idée de toujours produire plus et au détriment de ceux qui travaillent. Et donc, c'est vrai que le travail de mon frère m'a permis de faire un peu un parallèle avec ça, quoi.
En tout cas, après la réalité d'une grand-mère, la réalité du travail du frère qui t'inspire aussi un projet autour de métier particulier, c'est ça ?
Ouais, complètement. Ou bah clairement, je pense que la question de la déshumanisation est encore plus présente, quoi. Enfin, c'est poussé plus loin parce qu'ils travaillent donc pour des grosses plateformes de livraison. Je peux pas citer, mais bon, il y en a pas mal. Et en fait, voilà. Enfin, aujourd'hui, tout passe par des applis. La hiérarchie, elle est complètement invisibilisée. Donc, on a beaucoup plus de mal justement à faire corps, à faire collectif, parce que les choses sont beaucoup plus individualisées. Enfin, les employeurs ont tout intérêt à faire ça. Et donc,
Il y a la disparition du lien être à être, quoi. Tout se fait un peu numériquement.
Oui, bah oui.
Ça, ouais. c'est un peu. Ça peut être effrayant.
Oui.
Ça va être déjà l'heure de nous quitter, Sarah. Je te remercie beaucoup d'être venue partager un petit peu Marie-Jo, Marie-Antoinette, et puis les souvenirs avec elle, et puis ce documentaire « C'est comme ça » que vous pouvez revoir jusqu'à mi-janvier à peu près sur la plateforme France TV. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir chez Albertine.
Merci beaucoup.
Et merci beaucoup à toutes et à tous, les auditrices, les auditeurs. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Albertine. Et on termine cette émission, comme d'habitude, en littérature avec un texte choisi par notre invitée, Sarah Bélanger.
Alors oui, moi j'ai choisi un texte. Au départ, je voulais lire un extrait des années, Les années d'Annie Arnaud, parce que ça m'avait vachement porté dans l'écriture justement de ce film autour de... mon envie de lutter contre l'oubli et contre l'effacement des traces.
Ce livre t'avait accompagné pendant l'écriture ou la réalisation du documentaire ?
Exactement. Et puis, en rouvrant le livre, je suis tombée sur la préface. Donc, il y a une introduction avec un texte d'Anton Tchekhov qui m'avait énormément marqué aussi. Donc, j'ai décidé de le lire. Alors, oui, on nous oubliera. C'est la vie, rien à faire. Ce qui aujourd'hui nous paraît important, grave, lourd de conséquences, eh bien il viendra un moment où cela sera oublié, où cela n'aura plus d'importance. Et c'est curieux, nous ne pouvons savoir aujourd'hui ce qui sera un jour considéré comme grand et important, ou médiocre et ridicule. Il se peut aussi que cette vie d'aujourd'hui, dont nous prenons notre parti, soit un jour considérée comme étrange, inconfortable, sans intelligence, insuffisamment pure et qui sait, même coupable.